Voilà. Et pour nous autres, eh bien, nous allons ouvrir nos Bibles à Romains chapitre 8. Nous continuons toujours. Hein. Vous savez qu'au début de l'année, on a commencé avec Romains. Il y a 16 chapitres. On est au chapitre 8. Et donc, je ne sais pas si on aura fini d'ici la fin de l'année, mais voilà. Le but, ce n'est pas de finir d'ici la fin de l'année. Le but, c'est de comprendre l'essentiel de ce livre où l'apôtre Paul veut nous aider à comprendre ce que c'est que l'évangile de Dieu. Et nous avons vu le chapitre 7, nous sommes dans le chapitre 8, peut-être l'un des contrastes qu'on peut voir entre ces deux chapitres, hein, c'est très différent. Dans le chapitre 7, eh bien, on voit beaucoup ce pronom personnel, la première personne, je, quand je veux, quand je ne peux pas, je fais pas. Mais dans le chapitre 8, la personne principale, c'est le Saint-Esprit. Et le chapitre 7 nous décrit ce que c'est que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans l'influence, sans que le Saint-Esprit puisse remplir son rôle. Et dans le chapitre 8, eh bien, nous voyons ce qui peut être accompli grâce à l'Esprit Saint. Et donc, certains disent de nous, on ne croit pas au Saint-Esprit. Bon, on y croit vraiment, hein, on ne serait pas là sans le Saint-Esprit. Donc, mais nous voulons le Saint-Esprit tel que le Seigneur nous l'a présenté. Aussi, dans le chapitre 7, nous voyons, il met en valeur ce combat entre la nature charnelle et la nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ. Au chapitre 8, eh bien, il va nous dire comment nous pouvons traiter ce combat, hein, et comment le vaincre. Il dit, c'est vrai que tant que nous sommes encore ici sur terre, en tant qu'enfants de Dieu, et nous avons vu ça au début du chapitre 8, hein, donc dimanche dernier, nous avons vu, il nous dit que ce chapitre 8 concerne ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein, on a vraiment développé ce concept d'être en Jésus-Christ. Mais tout en étant en Jésus-Christ, il y a quand même deux options. Et c'est ça le sujet de notre étude ce matin, c'est marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Les deux options sont là. Nous trouvons dans ce chapitre 8, par exemple au verset 5, trouver affection aux choses de la chair et affection aux choses de l'esprit. Hein, il y a ces deux options. Au verset 6, il nous dit l'affection de la chair et il nous parle de l'affection de l'esprit. Au verset 8, 9, 12 et 13, il nous parle de vivre selon la chair ou de vivre selon l'esprit. Ce sont deux options qui sont là. Et ce n'est pas une question de salut, on est déjà en Jésus-Christ. Hein, et ce n'est pas un statut duquel on peut tomber. Mais après, nous avons ces deux options et il est bon pour nous de comprendre cela. Au verset 9, et avant d'aller plus loin, ben, je vais lire justement ce passage. Hein, donc, je vais commencer au verset 1 et nous allons lire jusqu'au verset 9. Donc, Romains 8. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc là, il termine avec cette pensée, hein, il nous a parlé de la croix de Christ. Après, il dit, bon, maintenant, le sujet suivant, c'est une question de marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Verset 5. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc déjà au verset 9, on voit que l'apôtre Paul nous dit, voilà, la chose normale, c'est quand même de marcher, de vivre selon l'Esprit. Hein, c'est ça, il dit, les deux options sont là, les deux possibilités, les deux choses existent. Mais il dit, maintenant, moi je compte sur vous hein, pour vivre selon l'Esprit. La présence de l'Esprit, hein, il nous dit ici, hein, à la fin du verset 9, il nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, la présence de l'Esprit de Dieu, c'est une réalité hein, dans la vie de l'enfant de Dieu. On ne peut pas imaginer naître de l'Esprit sans avoir l'Esprit. C'est comment naître de l'Esprit, puis après il s'en va, puis il dit, eh bien, j'attends que tu m'invites. Recevoir l'Esprit fait partie du colis, du package que le Seigneur nous propose gratuitement. Dans Acte 2, verset 38, je vous lis, hein, parce que Pierre venait de prêcher à la population, il leur a dit, voilà, le Messie est venu, mais vous l'avez crucifié, vous avez ceci, cela. Et alors les gens disent, mes frères, que ferons-nous? Bon, d'accord, on a péché, on le reconnaît, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et sa réponse était, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Le colis, c'est quoi? C'est repentir, recevoir le pardon des péchés et recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est le package. Hein, c'est, voilà, ça, c'est le cadeau. Donc l'Esprit est là. Hein. Si l'Esprit n'est pas là, il n'y a pas eu de naissance. Il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Hein, et c'est vrai qu'il y a dans certains milieux, on aimerait bien que le Saint-Esprit fasse un peu de bruit pour qu'on sache qu'il est là. Hein. Donc bon, après, ça s'appelle parler en langue. Mais vous savez, le problème n'est pas dans le fait que le Saint-Esprit ne peut pas faire parler en langue. Il peut. Et si Dieu a pu faire parler l'âne de Balaam, il peut nous faire parler des langues étrangères. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est que ce n'est pas un signe sûr, parce qu'il y a des non-croyants, il y a d'autres religions qui arrivent à faire des parler en langue. Hein, donc ce n'est pas un signe sûr, ce n'est pas quelque chose qui me rassure. Il faut trouver autre chose. Hein. Si je commence à me demander si le Saint-Esprit est vraiment là, il faut chercher par ailleurs. On en parlera. Donc, lorsque je viens... J'entends le message, Christ est mort sur la croix pour mes péchés, je reconnais que je suis pécheur. Donc il y a une prière que j'exprime. Ouais. Parfois c'est très court, parfois c'est plus long, c'est à chacun, hein, selon nos tempéraments, surtout dans l'état dans lequel on se trouve et tout ça. Mais l'essentiel c'est de dire, Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, je voudrais que tu me pardonnes. Et à l'instant même, lui ne veut que cela. Et il y a l'Esprit de Dieu vient, agit, et il y a une nouvelle naissance. Et là, on reçoit et le pardon des péchés, et on reçoit l'Esprit de Dieu. Hein? On reçoit la vie éternelle. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Hein? Donc, il nous donne cela, mais une fois qu'on a reçu cela, hein, une fois que j'ai reçu et le pardon de mes péchés, et la vie éternelle, et le Saint-Esprit, eh bien maintenant, il dit, bon, maintenant, tu as ce qu'il te faut, c'est à toi de... Tu choisis la qualité de vie que tu veux vivre. Hein, c'est un peu la maman qui donne naissance à un enfant, elle lui donne, voilà, il a un petit corps avec une capacité de se développer, et il a la capacité de respirer, il a tout, et on le met en marche, et après ça, hein, bon, après, c'est à lui de devenir quelque chose. Hein. Et Et donc, pareillement pour nous aussi, à la naissance, Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Et après, il dit maintenant, c'est la qualité de vie spirituelle, la qualité de vie que tu vas vivre, ça dépendra de toi. Et il dit, mais je te propose, hein, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, je te propose de vivre selon l'Esprit. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que je ne peux pas et marcher selon la chair et marcher selon l'Esprit. Hein, c'est l'un ou l'autre. Impossible de faire les deux. Vous savez, quand il nous dit dans Genèse que Enoch, il nous dit aussi de Noé, qu'ils ont marché avec Dieu, vous n'avez jamais compris que c'était que seulement le dimanche matin pendant quelques heures qu'ils marchaient avec Dieu. Hein, quand vous avez lu ça, vous avez dit, mais ça, c'est sa vie, c'était sa vie de marcher avec Dieu. Mais c'est ça la pensée naturelle. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas une question de quelques heures. Hein, quand il y a un pasteur et puis il y a de l'ambiance et on arrive à faire des choses ensemble et puis on est dans une conférence biblique ou bien quand on est dans un camp chrétien, et alors là, c'est... Non, marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon l'Esprit, comme Enoch a marché avec Dieu, comme Noé a marché avec Dieu, et il nous dit qu'il était vu comme juste. Et dans Paul écrit aux Galates, il leur dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc l'un élimine l'autre. Il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous ne pouvez pas et vivre dans l'eau et vivre dans l'air. Vous êtes ou aérien ou vous êtes aquatique, mais vous ne pouvez pas être les deux. C'est pareil, on marche selon la chair, soit on marche selon l'Esprit. Et c'est le choix est le nôtre. Donc, si ce n'est pas ce qu'on veut, il faut regarder dans le miroir pour voir à qui la faute. Hein. Qu'est-ce que c'est que... Et là, il a parlé de l'affection des choses de la chair. L'affection des choses de la chair. Vous savez, il y a une bonne illustration dans l'Ancien Testament pour ce que veut dire l'affection de la chair. Et l'affection de la chair, ce n'est pas forcément faire des choses qui sont mal. Hein, je vais développer l'illustration, là, pour vous aider à comprendre. On va parler de Isaac. Donc, Isaac, le fils d'Abraham. Hein. Si vous connaissez l'histoire, vers la fin de sa vie, alors il a deux fils hein, qui sont jumeaux, mais Ésaü est né le premier. Et donc, il dit à Ésaü, il dit, écoute, va chasser du gibier, prépare-le-moi comme je l'aime et je te bénirai. Première réaction, c'est, mais quel rapport entre manger du gibier, c'est pas mal, hein, mais manger un bon mets et la bénédiction de Dieu. Quel rapport? Mais lui, il a lié les deux. Pourquoi? Parce qu'il entretenait dans sa vie une faiblesse, une attraction pour le gibier. Il dit, prépare-le comme je l'aime. Alors, prépare-le-moi, parce que j'ai développé un goût particulier. Et Isaac est là, et dans un sens même, c'est extraordinaire, parce que dans Genèse 25, verset 28, il nous dit, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Vous rendez compte? C'est allez dire à votre épouse, tu sais, je t'aime beaucoup parce que tu sais bien faire la cuisine. Allez voir où elle vous envoie. Hein? Mais c'est ça. Et il va pas bénir Ésaü parce que Ésaü est le des deux, c'est celui qui est attaché à Dieu, celui qui est fidèle, c'est celui qui est. Non, il va bénir Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü l'a toujours, pendant tout le long de sa vie, il lui a préparé des bons repas. Et comme il aime ça, il n'y a rien de mauvais avec un bon repas. Hein. Moi, je suis content quand on a des invités à la maison, parce que les repas sont encore meilleurs. Et donc, j'aime bien un bon repas. Le mal n'est pas là. Mais c'est que pour Isaac, c'était ça. Tout était basé là-dessus. C'est l'affection de la chair. L'Éternel avait fait la promesse, il avait dit à Rebecca, il a dit, parce qu'elle avait les jumeaux dans son sein, il lui avait dit, écoute, il y en a deux, mais c'est le plus jeune et celui qui aura la bénédiction, hein, c'est celui qui dominera sur son frère. Et on savait déjà qui devait recevoir la bénédiction. Isaac le savait, Rebecca le savait, mais Isaac, parce que pendant toute sa vie, il a préféré les repas, et puis il avait un fils qui connaissait son point sensible et qui avait répondu plus que l'autre, et bien tout d'un coup, je vais le bénir lui. Voilà, je l'aime. Vous rendez compte sur quelle base? C'est pour ça qu'on dit la chair, c'est quelque chose de charnel, quelque chose de centré sur soi-même, pas centré sur Dieu. Ou l'intérêt de Dieu, c'est son intérêt lui-même. Et il va faire durer la chose parce qu'il ne veut pas que le fils arrête de lui préparer des repas. Donc il va attendre jusqu'au jour. Et vous le verrez, le jour où il veut bénir, il ne voit plus. Il n'a plus ses sens, il ne voit plus. Ne goûte plus parce que Jacob va lui préparer un chevreau, il ne verra pas la différence. Pourtant, il dit, j'aime bien le gibier. Et puis, Jacob va lui servir du chevreau et puis il ne saura pas la différence, il ne verra pas. Donc, il n'a plus le goût. Le toucher, il n'en a plus parce qu'il touchera les bras de Jacob, puis il ne saura pas la différence entre du poil de chèvre et puis le bras chevelu d'Ésaü. Il n'a même plus le toucher. Et puis Louis, il en a un petit peu, mais il n'est pas très sûr. Il dit, j'ai l'impression d'entendre la voix de Jacob, mais bon, il n'a pas confiance. Il attend jusqu'à tout est passé. Et après, le résultat d'une vie animée par une certaine un certain plaisir, eh bien, lui fera faire un choix contraire à la volonté de Dieu. Une bonne chose, mais parce qu'elle s'est accaparée de lui, parce qu'elle a dominé ses pensées, ses choix, eh bien, il va finir par presque désobéir. Heureusement que, et là, on ne justifie pas Jacob pour la manière dont lui, il a fait, par la tromperie, ça, c'est pas bon non plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que Jacob, une fois qu'Isaac se sera rendu compte que finalement, il a réellement béni Jacob, eh bien, il dira, Genèse 27, 33, il dira, aussi sera-t-il béni. Oui, il a dit, je savais que c'est lui qui devait être béni, et bon, il est béni. Ça s'est passé comme Dieu l'a voulu quand même. Hein, il sera obligé de l'admettre parce qu'il savait cela. Mais c'est exactement ce que veut dire l'affection de la chair. Et il nous dit, verset 6, Romains 8, 6, il nous dit « L'affection de la chair, c'est la mort. Ça mène à la désobéissance, ça mène à l'éloignement de Dieu, ça mène à avoir les pensées sur autre chose. Et pourtant, Isaac n'a jamais renié Dieu. Il n'a jamais renié le Dieu de son père. Mais parce qu'il s'est laissé dominer par quelque chose qui n'était pas de Dieu. Et ça a conduit à donc l'ancienne nature, sa nature, ce qui était naturel, a pris le dessus tout doucement. Et alors, il ne faisait plus la volonté de Dieu. La communion avec Dieu, elle disparaît. De même dans nos vies, on peut avoir des choses qui sont tout à fait correct, même bonne pour la santé, même, on peut avoir des choses, mais tellement ça nous accapare, tellement ça nous prend, ça commence à décider de tout. Et ça peut être la nourriture, comme ça peut être du sport, comme ça peut être des dadas, ça peut être des intérêts, ça peut être sa femme, ça peut être n'importe, ses enfants, ses petits-enfants, ça peut être toutes sortes de choses. Quand ça commence à dominer et ça décide de tout, il dit attention, attention, parce que là, ça va te mener sur un terrain où tu ne veux pas y aller, tu ne voulais pas y aller. Et le cas extrême, il nous le décrit au verset 7, il dit le cas extrême, c'est l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est arrivé au point où il ne cherche plus à obéir à Dieu. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et finalement, ils sont dans la nature. Ils ne sont même pas à l'église, ils sont ailleurs. On leur demande, si, non, j'aime le Seigneur, je tout ça. Mais alors là, il n'y a rien d'autre. Hein? C'est l'affection de la chair. Quelque part, quelque chose les a déviés. Il y a un courant sous-marin qui est passé là et puis qui a dévié tout le bateau. Et la chair ne peut pas plaire à Dieu, il dit. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Et se laisser entraîner par elle, eh bien, nous éloigne de Dieu. Donc, des activités qui sont bonnes en soi peuvent nous éloigner de Dieu parce qu'elles nous accaparent au détriment de notre relation avec Dieu. Et je dis ça sérieusement, et c'est pour ça qu'il est bon pour nous régulièrement de faire le point et dire, mais où est-ce que je vais? Comment est-ce que j'ai décidé cela? Sur quelle base? Est-ce que c'était vraiment le Seigneur qui me guidait ou c'était une passion personnelle, un désir, une ambition, une carrière que je veux accomplir? C'est fou combien ont été déviés. Chez les jeunes personnes... Eh bien, il voit quelqu'un qui lui plaît. Le jeune homme voit une jeune fille, la jeune fille voit un jeune homme, il me plaît. Et puis finalement, le fait qu'il plaît, eh bien, tout d'un coup, ça décide de tout. Et je ne suis même pas posé la question, mais est-ce qu'il aime le Seigneur ? Je me rappelle une question que mon père a posée, parce que après notre mariage, il me dit, Steve, il a dit à Rowena, est-ce que tu t'es posé la question à savoir si Steve serait un bon père pour tes enfants? Elle a dit non, moi je pensais à moi, c'est un bon mari. Mais ça va loin hein, les décisions. Vous savez, de nos jours, on est dans un monde où c'est ce qui plaît décide de tout. Ça me plaît. J'aime. C'est pas une question de si c'est bien ou c'est mal. C'est une question de ça me plaît ou ça me plaît pas. Et c'est la philosophie qui domine. Hein. Dans tout, on dit, écoute, si ça te plaît, et tant que tu fais pas de mal à personne, vas-y. Hein. Mais c'est vivre selon la chair. Et c'est tellement là, puisque nous vivons dans ce monde, et bien, l'influence, elle est là. Hein. Si on fait pas attention, on se laisse entraîner sans nous en rendre compte. Et après, tout d'un coup, on se demande pourquoi quelqu'un a disparu dans l'église. Tiens, il ne vient pas. Oui, mais ce n'est pas arrivé en une nuit. Hein. C'est quelque part, c'est dévié, et puis il y a un moment où ça décroche. Vous savez, la Bible nous parle de Démas. Dans Philémon 1:24, Paul dit « Démas, il fait partie de mes compagnons d'œuvre. C'est quelqu'un qui travaille avec moi. C'est pas seulement quelqu'un que je connais ou un chrétien. Non, c'est un compagnon d'œuvre. Il fait partie de l'équipe. » Mais plus tard, dans sa lettre à Timothée, 2 Timothée 4:10, il dira « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » C'est une question des... Il a été dévié par des affections. Oh, peut-être qu'il y a eu des problèmes. Peut-être que... Ça arrive, hein. Vous savez, si vous trouvez une église sans problème, ne rentrez pas, hein, parce qu'il y en aura. Mais des problèmes, après, on commence à réagir selon le naturel, et on commence à penser comme le naturel, et on commence à se comporter comme le naturel. Parce qu'il y a, justement, on a cette excuse de quelqu'un qui s'est mal comporté. Et tout d'un coup, eh bien, c'est nous-mêmes qui nous sommes écartés. Et nous sommes loin de ce que le Seigneur a pour nous. Vous savez, un jour, le comte Isendorf s'est trouvé devant une peinture de la croix de Christ, Christ crucifié. Puis ensuite, il a lu en dessous, « Voici ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour moi ?» Il a vu ça, puis il est parti. Et il avait des projets, il était... Et puis, mais après, il est revenu, il a revu, il a dit non. Il dit, le Seigneur me dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Je suis mort sur la croix pour toi. Et qu'as-tu fait pour moi ? Hein, c'est toujours... les chrétiens, donne-moi, et ça existe, hein, y en a plein. Les chrétiens qui disent, Seigneur, je te donne, il y en a moins, hein. Paul dira aux Galates, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? Galates 3, verset 3, il dit, vous avez commencé, vous avez bien commencé, mais maintenant, c'est plus ça. Et il dit, dépourvus de sens, mais ça ne va pas. Un, ça illustre, c'est fait que c'est possible. Hein. On a eu plusieurs cas de personnes qui se sont doucement égarées. Ce n'est pas leur salut qui a été remis en question. C'est leur relation à Dieu, leur communion avec Dieu, la qualité de vie qu'ils avaient qui a changé. Hein, on ne dirait pas évoluer, on dirait dévoluer. Hein. C'est quelque chose qui s'est détérioré. C'est du marche arrière, c'est du dévié vers autre chose, une autre attraction. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait toujours, il parlait d'adultère spirituel, quand les enfants d'Israël se détournaient de lui pour aller adorer d'autres idoles. Quand un mari se détourne de son épouse et qui est attiré par une autre femme, on appelle ça, oui, de l'adultère. Mais et quand on se dévie, on abandonne le Seigneur, notre premier amour, et puis on va vers autre chose, et ça ne se rappellerait pas la même chose. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est que pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont maintenant en Christ, qu'ils marchent selon l'Esprit. Et ça, c'est tous les jours. C'est marcher selon l'esprit, ça ne demande pas que je sois parfait. Vous savez, si vous avez un peu connu les chrétiens et vous avez été un peu dans les églises, vous avez vu des cas de personnes qui, tout d'un coup, il vient au Seigneur et sa vie est changée. Oui, il y a des choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas changées. Mais il est à fond pour le Seigneur. Et puis, bon, ce qu'on attend, c'est qu'avec petit à petit, les choses se corrigent et les choses s'arrangent. Mais il est à fond pour le Seigneur. Je peux dire que quand j'ai proposé à ma femme, je lui ai dit que je l'aimais. Et c'était sincère. Mais bon, maintenant, après 45 ans de mariage, là, quand je lui dis que je l'aime, c'est autre chose. Hein. Je me dis, mais c'était de la bêtise, c'était du c'est comme le chat qui vient se frotter contre vous quand vous faites griller du poisson. Hein. C'était ce niveau-là avant. Hein. Bah, t'es gentil, je t'aime bien, t'es sympa. C'était un peu de la bêtise. Hein. Premier amour, là. Maintenant, c'est autre chose. Peu importe, maintenant, j'espère que c'est au niveau où, peu importe ce qui t'arrive et dans quel état tu es, n'importe comment, je t'aime toujours. Hein, c'est ça, ça se développe. Et c'est la relation qui se développe avec le Seigneur aussi. La réponse courte est que pour marcher selon l'Esprit, il faut connaître l'enseignement de l'Esprit et le suivre en tout temps, en toute chose. Le Seigneur avait dit à ses disciples, il a dit, je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit Saint. Le mot consolateur, c'est le mot grec qu'il avait choisi, c'est le mot parakletos, para, qui veut dire à côté d'eux. Hein, comme parachute, hein, le parachute c'est ce qui est à côté de vous quand vous chutez. Et dit Paraclétos, celui qui se tient près de vous. Il a dit, voilà, c'est dans ce concept-là que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Parce qu'il va vous conduire, il va vous guider. Il sera là, ce sera comme un guide qui me fait passer sur un territoire que je ne connais pas. Et bien, je reste près de lui. Il est là pour nous conduire. Alors, marcher selon l'Esprit, ça veut dire que je marche près de lui. Je m'assure que j'entends à tout moment sa voix, hein, que je suis en état d'entendre sa voix et que je ne suis pas distrait par autre chose. Et bien sûr, nous savons que la Bible était inspirée de Dieu. Mais c'est l'Esprit, hein, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Il nous dit, Pierre l'écrira, il dit, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc quand l'Esprit a rédigé ce texte, eh bien, ce sont les pensées de Dieu. Donc si je veux marcher selon l'Esprit, ce que l'Esprit m'a communiqué, eh bien, je vais lire la Bible. Vous savez, il y a deux manières de lire la Bible, je crois que j'ai déjà dit. Hein. On peut la lire pour pouvoir dire, j'ai lu. Mais quand j'ai terminé, je ne sais pas ce que j'ai lu. Et puis, il y a lire la Bible dans le sens que je veux comprendre. Hein. Il y a certains mails que vous recevez dans votre ordinateur, des mails que on regarde, on dit en diagonale même, et rapidement. Et il y a d'autres, on lit chaque mot. Pourquoi ? Parce que c'est le sujet qui fait la différence. C'est pas si c'est écrit en bon français ou pas. Il y a des textes, il y a plein de fautes, mais vous lisez tous les mots. Pourquoi ? Parce que c'est la personne. Parce que c'est le sujet. Hein ? Alors, mais Dieu aussi, hein, ma manière de lire la Bible, eh bien, je suis en train de dire à Dieu ce qu'il est pour moi, ce qu'il représente pour moi. C'est sérieux, hein ? Après tant d'années en train d'étudier la Bible, j'ai l'impression que je découvre encore. Alors quand quelqu'un me dit, je connais la Bible, je connais. Je dis, j'espère que mon médecin, il ne parle pas comme toi. Hein. Ouais, j'ai fait médecine il y a 40 ans. Voilà, je connais. Je vais chercher un autre médecin. Nous devons lire la Bible, mais dans le sens de vouloir savoir ce qu'elle nous dit et ce qu'elle attend de moi. Il faut lire la Bible comme cette personne qui commence son permis de conduire et qui veut passer le code. Là, il lit tout. Il regarde tous les dessins. Et il regarde, pas comme ça en passant, hein, il étudie parce qu'il veut passer son code. Eh bien, lisez la Bible de cette manière-là. Vraiment ? De lire tous les mots, parce que je ne veux pas tomber dans les pièges qu'on va me poser. Vous savez, marcher selon l'Esprit, c'est vivre avec une conscience permanente de la présence de l'Esprit. C'est-à-dire, tout le temps, je suis conscient qu'il est là. Et une dépendance délibérée pour être conduit par lui selon les enseignements bibliques. C'est pas une question de je veux entendre et puis voir si ça me plaît. Non, dis-moi ce que Dieu veut et je vais le faire. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Je sais que tu es là, je veux jamais oublier que tu es là et puis je veux que tu me dises exactement ce que je dois faire, que tu me conduises. Et que quand je m'égare, eh bien tu me dis aussi que... Hein, vous connaissez ces jeux de colonies de vacances, là où on se guide, on essaie de retrouver un objet, mais par le bruit. Hein. Il faut chercher le tic-tac de l'horloge dans une salle avec les yeux bandés. Eh bien, comment on fait ? Si on voit que ça devient plus fort, c'est qu'on s'est rapproché. Si c'est moins fort, on s'est éloigné. Eh bien, dans votre marche spirituelle, si il dit, l'Esprit de Dieu, je n'entends pas très fort, ce n'est pas lui qui a baissé la voix. C'est vous qui vous êtes écarté. Hein? Donc, restons. Dans Éphésiens 5, 18, il dira, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire remplis d'esprit, ça veut dire sous le contrôle de l'esprit. Hein? Autant que celui qui est ivre, il est sous le contrôle de l'alcool, autant quand vous êtes dans l'esprit, vous êtes conduit par l'esprit. Hein? C'est lui qui décide, c'est plus moi qui décide. Ça ne veut pas dire qu'on perd la tête, ça veut dire qu'on là, on la retrouve là. Hein? L'esprit ne guide jamais, en aucune circonstance, je n'ai pas besoin de le répéter normalement, mais j'insiste, hein, l'esprit de Dieu ne guide jamais à ce que l'enfant de Dieu aille à l'encontre d'un enseignement clair de l'Écriture. Il dit, oui, je sais que la Bible dit, mais moi, j'ai prié, le Seigneur, il me conduit comme ça. Ce n'est pas le Seigneur. C'est tes désirs. Toi, tu as une interprétation qui est influencée par un intérêt personnel et qui te fausse tout. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit. Si la Bible dit quelque chose, c'est comme ça. Hein? Il sera difficile de marcher selon la chair et vivre selon cette exhortation. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est difficile de marcher selon la chair et de prier par l'Esprit. On peut dire des prières. Oh là, il y en a qui ont assez d'expérience, ils peuvent composer des prières. Mais prier par l'Esprit, c'est autre chose. Quand c'est des belles prières composées, les gens sont dans l'admiration. Quand c'est des prières par l'Esprit, les gens sont prosternés devant le Seigneur. Que le Seigneur nous dirige. Et qu'il n'y a aucun qui est bien placé ici pour regarder l'autre et lui dire, écoute, tu as un petit problème. J'ai assez avec moi-même pour m'occuper tous les jours. Et la meilleure manière d'avoir une influence sur une autre, pour l'encourager à vivre par l'Esprit, c'est de vivre par l'Esprit. Hein? Jésus, il a marché devant ses disciples, il a vécu sa vie devant eux, et c'est comme ça qu'il les a marqués. C'est pas en marchant avec un bâton, il dit « Oh, Pierre, par là, Jacques, tu n'as pas le droit de penser comme ça. » Thomas, qu'est-ce que tu dis ? Non, non. C'est vivre devant. C'est comme des parents. Hein. La meilleure manière d'élever les enfants, c'est de vivre la vie qu'on en attend d'eux. Hein. Et dans l'Église aussi. Et donc, c'est très difficile quand on commence à voir tous les problèmes des autres. On se dit, mais bon, tu t'es vu, toi ? Ben écoute, vis comme le Seigneur voudrait, pour que eux se rendent compte, prennent conscience du fait que peut-être ils ne sont pas conscients, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont égarés. C'est, vous savez, ça peut se faire sans qu'on le voie. Hein? Et c'est que le Seigneur nous aide. Mais ici, dans Romains chapitre 8, il nous dit, écoutez, le Seigneur dit, j'ai tout fait. Christ est mort sur la croix. Et si tu demandes, tu peux recevoir, parce que Christ est mort, le pardon des péchés, la vie éternelle et le Saint-Esprit en toi. Maintenant, écoute, tu as la boîte à outils, vis la vie à la gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous donne. Et c'est beau de cette manière-là. Il ne fait pas de nous des robots. Hein, où il nous programme, il met une carte dedans et puis tout d'un coup on se comporte comme des chrétiens. C'est pas beau, ça l'intéresse pas. Il veut des gens libres qui choisissent de vivre pour lui. Et il dit, écoute, et je trouve ça extraordinaire de pouvoir participer à ma croissance chrétienne. Hein, y a un plaisir. Il y a un plaisir. Et que le Seigneur nous aide. Et à chacun, ce que le Seigneur, l'Esprit a pu dire, hein, ou à quel niveau on a besoin de travailler ce matin. Hein. Peut-être on ne peut pas tout faire en même temps, mais peut-être le Saint-Esprit va vous conduire sur un point et dire, écoute, voilà, regarde un peu là, de ce côté-là. Et c'est à nous de nous tourner vers le Seigneur. Alors je vais donner quelques moments de silence, hein, que chacun pourra prier dans son cœur déjà, dire au Seigneur ce qu'il a besoin de dire. Et ensuite, je prierai pour nous tous. Thank you.